Le sentiment de la compassion, dont je répète qu'il est sans doute le plus fort en moi, avec celui de la dignité de l'être, fut cause de plusieurs incidents d'une cocasserie variée. Vers 14 ans, je commençais à souffrir violemment d'une appendicite qui troublait ma santé depuis mon enfance. Petite fille, j'avais connu en tout lieu où j'avais espéré le bonheur ces malaises affaiblissants auxquels j'opposais une négation inébranlable de l'esprit. Cet inaccepte dont la science a pu établir qu'il était la loi même de la vie, la constance obtenue par la lutte des créatures contre un monde qui les a suscitées et ne les agrée plus. Déceptions inévitables dans le froid de décembre, lorsque s'allumait, sans que j'y pusse assister, chez les sœurs de mon père, mes tantes françaises, l'arbre de Noël, évoqué bien des jours auparavant avec un poétique amour, comme la palme orientale, dans un poème de Henry Heine, « Songe au sapin du Nord ». Réclusion imposée en été, tandis que mon frère et ma sœur parcouraient les forêts de Ragatz, aux confins de la Suisse et de l'Autriche, où les torrents et le vent, dans les épaisses forêts, menaient le galop panique des strophes ténébreuses de Goethe, des musiques chasseresses de Weber. Impossibilité mélancolique de suivre ma famille à Chamonix, nom neigeux et fourré, qui me tentait comme une gigantesque friandise. Désespoir à Constantinople, quand j'étais seule à ne pouvoir me joindre au groupe de mes oncles en redingote, coiffés d'un fez, et de mes tantes ravissantes vêtues à la parisienne, qui allaient, avec la curiosité moqueuse du grec pour le turc, que ma mère jamais ne partagea, assister à une séance sacrée de derviche tourneur. Le temps n'avait fait que rendre mon mal plus certain et plus vif. Si épuisantes étaient à présent les douleurs qui m'étreignaient, que je parcourais tristement le jardin et les vergers d'Amphion avec l'imprécis mais profond désespoir d'un très jeune être en qui les alarmes corporelles semblent vouloir dominer la vaillance, abolir la pensive et grave résistance. Je maigrissais, je changeais de visage. J'ai l'habitude de dire qu'à partir de ce moment-là, je n'eus plus le type pour lequel j'étais née, car de robuste petite fille que j'étais, aux membres délicats mais arrondis et aux joues colorées, j'acquis ce caractère physique plus frêle, plus nuageux, qui fit de moi une adolescente pathétique, en dépit de la source du rire qui peut jaillir de mon désert, de ma famine, de mes brèves et mystérieuses morts, aussi étrangement que du rocher de Moïse. Je ne vanterai pas mon courage, comme j'en aurais le droit. Je l'assimile à mes forces, à mes chances. Je peux le décrire comme on dit, guillemets, j'ai les yeux verts, les cheveux noirs, la main petite et puissante, la substance de l'âme invincible. Fin de guillemets. Une mélancolie bravement dissimulée qui m'envahissait au cours de ces promenades, recommandées par des médecins peu avisés, comme si l'énergie qu'ils observaient en moi eût pu à elle seule combattre les sournois méfaits de la maladie. Cette mélancolie, donc, bravement dissimulée, avait frappé et peiné les modestes habitants de la côte d'Amphion, et tout d'abord le fermier et la fermière. Ce ménage de rudes paysans habitait une demeure située sur le bord de la route, et toujours fumante, d'une odeur de permanent repas, dont la buée cherchait des issues vers l'espace. Je n'étais séparée de ces gens excellents que par la palissade du jardin. Ils s'inquiétaient de me voir dépérir, traversaient le chemin et venaient causer avec moi, Plus exactement, il me présentait, parmi quelques interjections embarrassées par le respect, une série de physionomies contristées, silencieusement interrogatives et empreintes de commisération. Je rendais à leur sympathie une sympathie plus vive encore, ce qui encouragea la fermière, sorte de sorcière rustique, vermillonne et tannée, aux cheveux en poils de chèvre, mère pourtant de nombreux enfants dont elle allaitait le dernier, à l'acrité de l'instinct chez le fermier, à me confier que sa fille, Prothésie, du même âge que moi, ressentait des troubles analogues aux miens. Elle ne digérait pas, perdait l'éclat de son épais et fourbe visage. Intéressée à la misère de cette adolescente autant qu'à la mienne, et déjà habituée à distribuer, avec une sorte d'autorité judicieuse, les médicaments que je jugeais expédients, je traitais la pitoyable Prothésie comme je me traitais moi-même. Je lui portais des cachets et des pilules, je lui indiquais la manière d'appliquer des compresses afin d'assoupir la douleur. Ainsi, j'attirais sur moi les bénédictions de la nombreuse famille et du voisinage ému. Un jour, j'appris que Prothésie, dont tout Enfion disait « Elle a la même maladie que Mademoiselle Anna », venait de mettre au monde un petit enfant malingre, conçu dans le vertige et l'ébriété du hameau en fête d'Enfion-la-Rive. Cette leçon ne me découragea pas. Le « j'ai la même chose que vous », dit charitablement à la penaude campagnarde qui sentait la brebis, le fromage, la fumée de la soupe éternelle qui bouillait comme un encens vers des dieux végétaux sur le fourneau de ses parents, devait être répété souvent encore par moi. Une de mes jeunes amies du lac, que l'on me permit d'aller voir dans un sanatorium, était fort éprouvée par une anémie cérébrale. Couchée dans une position inclinée, les pieds plus hauts que la tête, elle me semblait manquer, ainsi que ses compagnons d'infirmité, au noble respect humain, par une exhibition loyale et triste. Je tins à lui affirmer, faisant allusion à des moments de cruelle fatigue que l'insomnie m'infligeait, « J'ai la même chose que toi. » Le bruit s'en répandit, ma mère et moi nous dûmes, et ce fut aisé, fournir à quelque malveillant le témoignage de ma volubilité dans la conversation et de ma mémoire. Les spontanés mensonges que je proférais pour dissimuler à des créatures dans la peine l'isolement et la particularité que cause le malheur physique, je suis tentée de les commettre toujours. Pendant la guerre, je fus en proie aux justes visions de la plus grande des catastrophes répandues sur le globe. Bien que ne concevant pas la vie sans le salut d'une nation innocente, un désespoir universel m'avait envahi. Nuit et jour, je regardais l'espace où luit à tous les yeux l'unique soleil, où croît et décroît la lune de toutes les contrées. L'infini des cieux m'attirait, par sa pure négligence, hors des luttes hideuses de la fourmilière humaine. J'en étais venu à ne plus pouvoir poser mon regard sur une main, tant m'oppressait le sentiment que le réseau des veines était fragile, précaire, menacé, ouvert sur l'étendue terrestre. La mort diffuse, la mort perpétuelle m'avait déshabitué de ma propre vie. Dans ces moments de constante hantise, une charmante créature, au visage menu et gai d'oiseau dansant, les yeux pimpants, avivée par une chevelure précocement grisonnante, venait me rendre visite chaque matin. Amenée près de moi par la poésie qu'elle aimait, retenue par ma visible douleur, elle obtint ma confiance. Je répugnais pourtant à lui décrire mon intolérable malaise, tant il me semblait indigne de songer à moi lorsque souffraient tous les corps. Silencieuse, souriant par gratitude, je lui laissais le choix des divertissements qu'elle souhaitait m'apporter. Chants espagnols, lancés avec audace et imitative pétulance, esquisses de fandangos et bruits de castagnettes, dictons cités dans l'idiome de toutes les provinces de France, confections au centre de la chambre languissante où je semblais un blessé au repos, de mets pittoresques qui mélangeaient la tomate avec l'olive, le piment, le maïs, sur un ingénieux appareil électrique. C'était un des charmes de ma neuve et naïve amie nomade que, tour à tour, chaque pays avait conquise. Un des charmes, donc, de ma neuve et sensible amie de croire que la polenta reconstituait Naples et la pauvreté chantante du Pausilippe, la tomate ou le piment, un cabaret à Burgos, l'olive, les auberges d'Agrigente. Je subissais avec reconnaissance sa bonté inventive qui s'ingéniait à me procurer toutes sortes de distractions, sans parvenir à m'apporter le moindre secours. Mais un jour, j'entendis la bénévole visiteuse, à qui je m'étais comparée, en souvenir d'une mélancolie de jadis, dont elle m'avait fait la confidence. Je l'entendis donc s'irriter contre moi, tant sa nature pétillante était loin de pouvoir s'apparenter à ma détresse. Et elle prononça ces paroles stupéfiantes. « Mais qui de nous n'a souffert les tortures qu'en ce moment vous endurez? Dès ma jeunesse, j'ai connu par intermittence cette anxiété. Oui, qui de nous ne s'est pas cru chien? Qui de nous ne s'est pas cru panier ?» Je regardais craintivement ce visage gracieux qui soudain me parut redoutable. Ainsi, le charmant Pivert, dont les yeux enrosés riantes et les pittoresques pèlerines battaient gaiement des ailes dans ma chambre, était une inconnue, un être parfois grièvement déraisonnable, dont la pensée, loin de toute discipline, avait habité la région décriée des absurdes fantasmes. Depuis, c'est avec plus de circonspection que j'ai affirmé à toute créature que sa souffrance était en tout point semblable à la mienne. Cette vivace et universelle sympathie qui m'anime, n'en suis-je pas redevable, pour une part, à l'énergie de l'orgueil, à l'inspiration qui m'inonde de sécurité et de forces insoupçonnées. Guillemets. L'instinct de protection est un instinct de puissance, écrit Pascal. On ne saurait en douter. Une spirituelle et fraternelle amie prit le parti, au cours de ma vie difficile, de moins me plaindre, comme pourtant il sait, que d'exalter les facultés qu'elle me connaissait. Un jour où, repoussant la mortelle fatigue, je puisais en moi une vigueur que je dépensais aussitôt sans réserve, elle me regarda parler, bondir, aiguillonner l'espace, et, satisfaite, elle s'écria en riant « Quel athlète! Quel chanteur! Quel général !» Au début d'une année scolaire, j'avais 6 ans. Ma mère me dit tendrement: je viens de recevoir une lettre de Madame Leroy, la directrice du cours de solfège. Elle a été contente de vous. Par une habitude anglaise, ma mère ne nous tutoyait pas, mais nous tutoyons nos pères et elle. Vous passerez dans un cours nouveau, plus avancé, alors que vos petits camarades répéteront les mêmes études. Vous, ce sera autre chose. Autre chose, du nouveau, l'inconnu, plus le même, j'eus une vision vertigineuse de la transfiguration du monde. Où allais-je donc me trouver? Depuis un an, on me conduisait avec mon frère et ma sœur chez Madame Leroy, au second étage d'un immeuble obscur de la rue Comartin, où la replète et trottinante maîtresse d'harmonium, assistée de Mademoiselle Cécile, alerte et bienveillante, de Mademoiselle Juliette, sévère bien que coquette, nous terrorisait et nous émerveillait par une science musicale hermétique, par une familiarité solidement établie avec la clé de Fa et les clés d'Ut. Le trajet de l'avenue Hoche à la rue Comartin bouleversait chaque fois notre gouvernante, inquiète d'un itinéraire compliqué où figurait, hasardeux, difficile à joindre et souvent complet, le tramway de la rue Thébou. Souvenir d'instants brusqués et sans charme qu'avaient soudain illuminé les paroles de ma mère. Je ne l'interrogeais pas davantage sur l'annonce qu'elle m'avait faite. Je savourais un plaisir au long écho. Je remarquais seulement que la leçon à laquelle j'assisterais était indiquée pour 5 heures et non plus pour 3 heures comme l'année précédente. J'allais donc entrer dans un cours nouveau, pénétrer dans quelque chose d'inouï, ascension due à mes mérites, au sort favorable, et j'avais 6 ans. Dans le tramway qui parcourait le boulevard Haussmann pour s'arrêter à la rue Thébou, je rêvais enivré. J'aimais le tramway, son rythme grinçant et heurté, sa voûte de cabine de navire coloriée d'affiches, et je savais que se poseraient sur moi des regards souriants, tandis que me parviendrait un murmure où je discernais toujours ces mots. Quels grands yeux! Je songeais aussi qu'à l'issue du cours de solfège, j'irai dans une pâtisserie du passage du Havre acheter un croissant, à l'heure où les lycéens de Condorcet y passent, en groupe turbulent parmi les courants d'air des portes glissantes, vigoureusement poussées et rejetées. Je savais que, parfois, ils laisseraient tomber sur moi une observation galante qui faisait naître en mon cœur un bouillonnant plaisir. J'attendais donc avec impatience mon entrée au nouveau cours de solfège. Quelles ne furent pas ma stupeur, mon incrédulité, ma détresse, suffocante en sa résignation, lorsque je vis que l'on me conduisait exactement dans la même pièce du local habituel et à la place même que j'occupais quelques mois auparavant. Comment ? Le nouveau n'était pas du nouveau ? On pouvait entendre de grandes personnes, loyale comme ma mère, dire « ce ne sera pas comme l'année dernière » et se retrouver au même endroit, frustrée de la magie du changement. En dépit de toute promesse, j'étais bien sur le banc de cuir étroit et long qu'il fallait soulever et rabattre pour s'y glisser devant la table commune gardie de reps grenat qui m'avait ennuyé, désolé, pendant toutes les classes de l'année précédente. Où donc était la merveille, l'aventure espérée? Hélas, nulle modification. L'étendue et l'espace étaient-ils donc si indigents qu'ils ne pussent pas m'offrir autre chose que cette morne continuité? L'étonnement et la déception que je ressentis éveillèrent en moi, d'une manière subite, réfléchie, le sentiment de l'atmosphère et de l'étourdissant cosmos. Jusqu'à ce jour, j'avais appartenu, par le printemps de l'avenue Hoche, par les étés jubilants d'Amphion, à la nature terrestre, à sa prodigalité, à son ciel amical, prairie d'en haut, coupole tutélaire que je croyais arrondie avec tendresse sur la famille humaine, voûte énigmatique dont la solennité m'avait parfois la nuit inquiétée, mais qui d'habitude ne m'intriguait pas plus qu'une pelouse indigo fleurie de jasmin diamanté. Désormais, j'appartenais aussi à l'étendue, à l'éther, à l'illimité dont on m'avait promis une portion infime que l'on ne m'avait pas donnée. L'infini que je méditais soudain anxieusement dans l'étroit appartement fumeux de la rue Comartin vint chercher la petite fille lésée, l'entraîna dans son domaine aérien où l'esprit, orné d'ailes, gorgé de liberté, n'accorderait plus au séjour terrestre la valeur que les humains dupés lui confèrent, si l'amour et le malheur ne rendaient au limon primitif ses pouvoirs de plaisir créateur et de pensif déchirement. Chapitre 7. Octobre, au bord du lac Léman. La mort de mon père. Protocole funéraire. Monsieur Dessus et la consolation. Quand nous ont quitté ce que nous aimions. Monsieur Caro et les Carolines. Diplomates à table. Grandeur et misère des réceptions. Vivre et mourir. Un jour vient où le malheur entre dans la maison. Nous étions de très petits enfants, heureux à Anfion en octobre. Ce mois de cristal est le plus beau qui soit au bord du lac Léman. L'été finissant traîne ses caresses ensoleillées sur les prairies encore en fleurs et qui soupire de satisfaction. Les rayons plus vifs du matin amollissent l'onde en sa profondeur jusqu'à tenir au pressé et immobile la vive et preste truite. Les oiseaux, pris de vertige, tournoient sans discernement, dans une confusion bleuâtre, se trompent d'éléments, pénètrent les vagues, d'où ils rejaillissent, si bien qu'on croit voir une hirondelle qui nage, ou une ablette ailée. En ces matins d'octobre, l'absence de baigneurs rendait à la navigation industrieuse les bateliers, tous enrôlés en été dans le service des sources ou du port mouvementé déviant les bains. Des voiliers chargés de gravier, larges barques aux ailes croisées et bien ouvertes, dessinaient sur l'horizon, divisée par la ligne des montagnes d'un bleu accentué, la forme d'un ange parcourant les flots. Les balcons et les terrasses des villas, empiétant sur l'espace, semblaient aider l'homme à conquérir un peu plus de cet azur qui le tente et paraît le guider vers le bonheur. Octobre, c'est le moment de la fenaison, l'odeur du foin fauché qui jonchait les plaines et les coteaux était si dense que par une confusion d'essence, cette vaste senteur semblait verte. Les cloches des troupeaux que les sommets neigeux rendaient au pâturage de la rive emplissait l'air d'un angélus pastoral. À l'heure du crépuscule, la troupe invisible des génies de l'air déployait, avec plus d'empressement que ne le font les marchands d'Orient, le tapis du soleil déclinant qui dorait jusqu'à la couche secrète de l'onde. L'intérieur de notre maison, les boiseries du vestibule, des escaliers et du salon, les tentures fleuries de bouquets tramés dans le chanvre, le piano verni où jouait ma mère, s'imprégnaient d'humidité, combattue par des feux de bois où éclataient en étincelles les vigoureuses pommes de pin ramassées sur les pelouses du jardin ventilé. Dans ces moments où l'asile humain lutte contre le turbulent automne, je compris pourquoi la demeure peut, en dépit de son aspect de tutélaire prison, rappeler si fortement la nature et en dispenser les baumes. Elle est née de l'arbre et conserve, jusque dans ses humbles revêtements, réduits à nous rendre ses services, la moelle, l'essence, les fibres et la résine des forêts. De là ce parfum secret et insistant des logis, aussi radieux à l'odorat que la couleur l'est au regard. Si parfaite de transparence, de pureté, de bonheur, sans inquiet désir, si parfaite furent de telles journées de Savoie qu'elles devaient me servir de modèle définitif pour la figure du monde selon mon choix. Mon père, dissimulant sous un robuste entrain le regret que lui causait la séparation d'avec son jardin triomphal et d'avec sa famille, était rentré à Paris afin de conduire mon frère aîné, âgé de 9 ans, au collège. Ma mère, entourée de convives familiers, continuait de mener sa vie habituelle, enveloppée de musique, soucieuse de visites à rendre aux châtelains du lac. Les uns étaient possesseurs de rudes bâtisses, ayant la prétention d'avoir abrité les ducs de Savoie ou Saint-François de Sales, les autres se montraient vaniteux d'un manoir modeste où les blasons arrogants de la noblesse provinciale déroulaient de la simèse aux poutres du plafond des chimères dardant une langue de feu. Habitations toutes exquises par le lierre, le buis géant, les vignes, les plates-bandes de calcéolaires et de bégonias, l'ombrage des noyers et des châtaigniers indifférents à la sécheresse casanière de l'arbre généalogique. Soudain, la nouvelle d'une maladie subite de mon père se répandit dans notre maison. L'alarme, à la manière d'une rumeur assourdie, d'une anxiété brouillée et indéchiffrable, parvenait jusqu'à ma sœur et moi. Les télégrammes, en ce temps-là peu rapides, arrivaient par le facteur, déviant à notre villa d'Anfion. Nos hôtes de l'été, qui occupaient la demeure, s'ingéniaient, nous le devinions, en surprenant leur conversation accompagnée de gestes emportés et négatifs, à rassurer ma mère. Ils lui tenaient ces ignorants propos, dont le but est d'embarrasser et de contredire la révélation progressive de la réalité. L'annonce inquiétante faite à ma mère et à son entourage par les messages expédiés de Paris semblait se maintenir fièrement à leur hauteur, ne descendre que lentement et par lambeaux jusqu'aux petites filles placées au bas de la vie commençante. Cependant, d'heure en heure, la gravité du mal qui terrassait mon père augmentait. On nous abandonnait à notre curiosité triste, à nos suppositions sans parole. La vie quotidienne de l'enfant, quand ne survient aucun événement, est parfois chose si morose que le remuement causé par l'angoisse circulant dans la demeure pose devant son esprit une interrogation, un inconnu, et, j'ose le dire, une sorte d'espoir désespéré de changement qui l'agite sans qu'il puisse définir son trouble. Oui, si le vent vif venu de loin, chargé de nouvelles angoissantes, était soudain retombé, si le télégraphe aux communications aériennes rassuré enfin s'était tu, si le calme s'était rétabli trop vite, apportant la ponctualité inexorable des leçons, des repas, du coucher, j'eusse ressenti une déception que l'âme, dans son besoin de surprise et d'aventure, redoute. Ce sentiment fugitif me traversait confusément, sans faire partie de moi-même. Tandis que les gouvernantes, préoccupées, parlant à voix basse, nous laissaient user de la balançoire, allégeant notre sort des habituelles réprimandes, dont l'absence, cette fois, éveillait notre défiance. On nous apprit brusquement que notre mère partait le soir même pour Paris, l'état de santé de mon père s'étant aggravé. La maison se vida de ses hôtes, les femmes de chambre nous éloignaient du corridor en émoi, afin de transporter en hâte et librement, jusqu'au casier étalé des mâles, les toilettes, la lingerie, tout le contenu de nombreuses armoires. Prête pour le départ, notre mère, au visage soudain immobile et consterné, ne nous fit pas d'adieu. Enfin, nous nous trouvâmes, à l'heure du dîner, ma sœur et moi, dans une salle à manger froide, qu'on ne prit pas la peine d'éclairer suffisamment, et entourée de serviteurs sans contrainte, lesquels amenaient à leur suite autour de nous, bien qu'à distance, les bateliers, les jardiniers de notre propriété, sans surveillance. En un instant, nous fûmes assises à la table trop grande, seules, l'une en face de l'autre, à la place qu'occupaient nos parents. Ascension immédiate et poignante des petits êtres qui tout à coup succèdent dans un espace désertique à ceux qui dominaient, commandaient et protégeaient. Au cours de ces réminiscences, je songe à la phrase poignante que Michelet nous rapporte de Luther. Revenant d'assister aux obsèques de son père, le violent réformateur se laissa tomber, silencieux et accablé sur un siège, où ses amis, anxieux, s'empressèrent autour de sa farouche détresse. Il les écarta de sa personne, scruta longtemps du regard ce gouffre invisible où s'était engloutie sa chair initiale, et bien que dans la force de son âge, il prononça ces paroles amères, fit retentir cette plainte d'orphelin que plus rien derrière soi ne surplombe ni n'étaye. Désormais, c'est moi, le vieux Luther. Dois-je rapporter tous les propos innocents et cruels qui, pareils à des flèches lancées par des sauvages, transpercèrent mon esprit dans cette salle à manger, où les serviteurs et leurs camarades du jardin et du bateau nous plaignaient et nous accablaient sous une pitié sans choix. Je veux, si dur que soit pour moi ce souvenir, rappeler le moment stupéfiant où j'entendis le maître d'hôtel dire à la femme de charge, avec un respect profond et pieux, mêlé pourtant du sentiment que son service habituel continuait, « Il faut emballer et expédier immédiatement l'habit du prince, le gilet et la cravate blanche. » Comment eussé-je compris que ces paroles inouïes, qui évoquaient les dîners chez les barons de Rothschild, d'où nos parents nous rapportaient de menus bibelots en confiserie, l'inauguration des régates sur le lac d'Évian, un gala de tableaux vivants où je fus déguisée en minuscule égyptienne, cependant que ma mère, imitant Cléopâtre, dirigeait vers son cœur un serpent de papier, annonçait comment eussé-je compris que ces paroles inouïes, qui évoquaient les dîners chez les barons de Rothschild, d'où nos parents nous rapportaient de menus bibelots en confiserie, et l'inauguration des régates sur le lac d'Évian, et un gala de tableaux vivants où je fus déguisée en minuscule égyptienne, cependant que ma mère, imitant Cléopâtre, dirigeait vers son cœur un serpent de papier, comment eussé-je compris que ces paroles inouïes annonçaient la mort de mon père? Pouvais-je concevoir que le corps sans souffle allait pour la dernière fois et pour toujours revêtir ce strict vêtement au contraste éclatant de noir et de blancheur brillante sur lequel s'était détaché, appuyée à lui, gracieuse et nerveuse, filiale, ma mère, en robe de bal, que l'on nous avait accordé de voir dans son vaste cabinet de toilette de Paris. À ces moments, mon père, un de ses yeux de myope, irisés par le monocle, inspectait minutieusement, avant le départ pour le succès, les atours de sa belle épouse, qui me parut féerie un certain soir, enveloppée dans un tourbillon de tulle rouge, ayant sur une de ses épaules au pur contour deux noires hirondelles agrafées. Les enfants sont de trop dans le malheur. Les adultes, convaincus de l'indifférence de l'enfance et agités par tous les pénibles devoirs qui leur incombent, bousculent les petits corps, les refoulent sur leur passage, ne savent où les mettre et de quelle manière momentanément s'en défaire. Lorsque ma sœur et moi nous débarquâmes à Paris après une nuit passée assise dans un wagon suffocant et comble où l'on nous avait admises par compassion, nous fûmes d'abord conduites rue de Varennes, dans l'hôtel d'une cousine de ma mère, la princesse Gortchakoff, absente de sa superbe demeure. Présente, elle nous eut si fort effrayés par une sorte de brutale désinvolture plus tard abandonnée par elle pour des rêveries musicales, archéologiques. Elle nous eut si fort effrayés que toutes nos pensées eussent été accaparées par la crainte de son apparition. Mais la demeure était déserte et silencieuse. Les timides interrogations que nous posions à nos gouvernantes ne provoquaient pas de réponse. Sans décisions à prendre, elle transportait les valises, les ouvrait, les refermait, s'employait à l'inutile. Vers midi, des serviteurs étrangers drapèrent habilement d'une nappe la table en marqueterie d'un des salons et apportèrent des plats nombreux qui participaient à mes yeux du mauvais songe au fond duquel nous étions précipités lamentablement. Privés de direction, nous errâmes, ma sœur et moi, dans des chambres luxueuses tapissées de satin bleu, de satin blanc, où les lits, à notre grand étonnement, portaient des enveloppements de mousseline qui les protégeaient contre les moustiques entretenus par un étang, dont le noble aspect composait une des beautés du jardin renommé de la rue de Varennes. Ce dépaysement, dans l'aube froide d'octobre, le deuil, incertain encore, que nous sentions planer sur nous et auquel faisait allusion avec pitié et maladresse un garçon d'office venu de l'avenue Hoche pour aider à notre éphémère installation, puis à notre retour auprès de notre mère, me firent connaître l'horreur d'une situation qui inquiétait et offensait tous les sens. Et pourtant, l'on ne nous reconnaissait pas même le droit d'enregistrer la vie et de nous plaindre. Enfin, nous fûmes replacés le soir de ce jour cruel dans un omnibus de gare, joyeux quelques mois auparavant. Quand il nous emportait, munis d'instruments de jardinage, de filets à papillons, de boîtes de botanique vers la gare de Lyon, j'eus la vision de ce voyage d'été, des stations aimées, d'Ambérieu, de Culose, de Thonon-les-Bains, apparition bénie du lac. Pendant le parcours de la rue de Varennes à l'avenue Hoche, la gouvernante, la bonne, le garçon d'office, absorbés par une épuisante métaphysique simple et vague, ne se départirent pas de leur silence. En entrant dans la pièce où ma mère se trouvait assise et comme figée, sans autre expression que celle de la stupeur et vêtue d'un noir opaque, je compris que mon père était mort. Mais je ne voulus pas le savoir. Je tins mes doigts contre mes oreilles pendant des heures, afin de ne pas entendre formuler ce que je n'ignorais plus. La puissance des mots, ce qu'ils ont d'irrévocable, l'annonce évocatrice que ne peut égaler ou dépasser que le spectacle même qui nous fut épargné, la puissance des mots me rendait puissamment minutieuse envers un tel événement. Les précautions que je pris toujours contre la violente intrusion des paroles dans l'esprit, je ne m'en suis pas servi pour dissimuler la douleur, pour la taire. Dire ou ne pas dire, tout le caractère des êtres et l'appui sur lequel se meuvent les événements dépendent du choix que l'on fait de l'une ou de l'autre de ces décisions. J'ai toujours préféré, quand c'était possible et ne pouvait nuire à nul être, dire un peu, ou beaucoup, ou différemment, afin de me délivrer d'une quantité de cet invisible sang spirituel par quoi l'on suffoque. Ce qui me semble certain, c'est que la phrase de Madame de Staël, « Les grandes douleurs sont muettes » est en marge de la réalité. Le malheur, à vous, se débat, raconte clame, et je trouve parfaitement justes et émouvantes ces paroles prononcées par un être en proie à une grande souffrance dont il cherchait à exprimer l'intensité. J'ai inventé des cris nouveaux. Dans l'hôtel en deuil de l'avenue Hoche, on continuait à nous jeter de côté, comme si notre présence misérable et silencieuse, notre incapacité de servir et d'apporter quelque soulagement au désespoir maternel, témoignait d'un manque de respect ou révélait un esprit dissipé. Les amis de ma mère ne se souciaient que d'elle. L'on paraissait nous reprocher, jusqu'à notre pauvre aspect d'enfant, détérioré par la catastrophe. Nous finîmes notre journée dans l'office, chez les serviteurs, et passâmes la nuit dans la chambre du cocher et de sa femme, qui nous la cédèrent. Le cœur populaire est zélé, organisateur, prodigue. Il offre ce qu'il pense devoir être désirable et réparateur. On nous apporta une nourriture excessive, on entassa des édredons sur le lit, on fit dans la cheminée un feu qui éclaira la modeste pièce d'une sorte d'incendie heureux, mais l'âme demeura solitaire et comme blessée de tant de soins destinés au corps. En un instant, mon père, aimé certes, mais craint, devint l'objet de la dévotion de tous ceux qui l'avaient servi. Nous surprenions des lambeaux de conversation entre les femmes de chambre, où il était dit que nous avions tout perdu en le perdant. Ma mère, qui toujours fut indulgente, expansive, familière, riante, enfantine, semblait soudain exclue de la sympathie. On regrettait celui que l'on avait redouté. Pour ma part, je cessais de vouloir vivre, de pouvoir manger. Je ne comprenais pas bien que le destin, par un si grand trouble intérieur, voulût m'obliger à sortir d'un univers où il m'avait exigé. Je périssais confusément, comme un oiseau qui meurt. Un peu d'eau de Cologne qu'on me contraignit à respirer dans un moment où je défaillais me laissa une impression si nette d'arôme mélangé au malheur que, pendant des années, je conservai à l'égard de cette allègre effluve une aversion insurmontable. Au bout de peu de jours, un surprenant protocole funèbre, affairé, triste, alerte, s'empara de la maison. Les deux amis constants et autoritaires de la demeure, Monsieur Dessus et le docteur Vidal, fort célèbre en son temps par de subtiles découvertes qui le désignaient comme l'animateur de l'hôpital Saint-Louis, veillaient à tout et, pareil à deux cariatides, soutenaient, au-dessus de nos têtes implorantes, la construction du monde sur le point de s'écrouler. Monsieur Dessus aimait ma sœur. Le docteur Vidal m'aimait. Les petites filles inspirent aux hommes que séduit le charme de leur mère une tendresse protectrice, mais qui, en ces innocentes manifestations de préférence, satisfait un attrait vif, secret, compliqué. Peut-être voile-t-il cet ignorant appétit sensuel qui consiste à n'être rassasié de la créature premièrement désirée que par un prolongement confus de la convoitise, par un souhait d'assouvissement continuel dans la race représentée par ces jeunes ramures. Néanmoins, le dévouement de ces deux amis de ma mère était, en ces heures funèbres, uniquement occupé d'elle, et nous laissait le sentiment de notre importunité. J'ai gardé aussi du premier deuil de mon existence le souvenir des discussions qui s'élevaient au sujet de la densité du crêpe, de la valeur dans le désastre du noir mat ou du noir de jet, de l'audace qu'il y aurait à soulever au cours d'une promenade furtive dans les chemins isolés du bois de Boulogne, le voile pesant et rabattu sur le visage qui empêchait ma mère de respirer. Enfin, 6 mois étant révolus, les fournisseurs s'enhardirent. De réservés qu'ils étaient, ils devinrent empressés, obséquieux, flatteurs, et abordèrent la question du noir saillant. Peu à peu, le malheur, dans une certaine proportion, se convertit en grâce et coquetterie. Monsieur Dessus, exploitant avec une opiniâtreté sincère, dictée par la foi notre malheur, retenait la pensée de ma mère et la nôtre fixée sur les tombeaux et sur l'immortalité. Il apportait souvent à ma mère, dont il faisait ainsi jaillir les larmes, toujours prêtes à sourdre, de petits volumes, choisi chez un libraire de la rue Cassette, dans une collection qui s'était donnée pour tâche de cultiver la mélancolie, de défricher la renaissance de la vie dans l'âme et dans les corps fortifiés. Un soir, Il lui remit fièrement, comme on offre la subsistance à qui jeûne, et la certitude à qui languit dans le doute, une plaquette cartonnée sur laquelle je lus ces mots. Au ciel, on se reconnaît. De telles promesses destinées à ma mère et non à moi ne manquaient pourtant pas d'agiter mon cœur. Ah, que je souhaitais la réalisation d'une si radieuse assurance. Ce qui m'empêchait de me complaire à la lecture de ces petits livres d'un ton hautain, mais hélas, insouciant et léger, c'est que j'appelais de toutes mes forces un apaisement plus prompt que les rédacteurs impérieux des consolantes écritures ne s'ingéniaient pas à procurer. Les alternatives d'espoir et de désespoir durèrent plus de 2 ans. Des cérémonies funèbres, fréquemment répétées, s'opposaient à la cicatrisation de la blessure. Le deuil, pesant et prolongé, tel qu'on le conçoit en Orient, et que ma mère était encline à le considérer, avait pour conseiller apaisant le docteur Vidal, mais pour zélateur, Monsieur Dessus, robuste et sensuel corésien, décidé à diriger les âmes vers Dieu par la douleur qu'il ne jugeait plus nécessaire à son propre salut. Possédant la foi la plus tenace et spacieuse, ayant ainsi atteint le but, il se mettait à l'abri de toute tristesse, jouissait avec plénitude de l'existence et pensait seulement ajouter à ses mérites en guidant durement vers Dieu les esprits hésitants. Il nous faisait de grand cœur gravir un calvaire dont il ne tentait plus l'ascension, assuré qu'il était que nos efforts lui seraient bénéficiels. Comment ne pas songer ici au deuil secret et dénué de tout apparat qui, plus tard, accompagne la mort de ceux de nos amis qui emportent avec eux notre vie? Il nous laisse gisants, sans nulle autre partie à prendre que de méditer leur intolérable absence. Le vieux tricot de laine cramoisie que nous portions à l'heure des conversations tendres et familières, aux instants de notre travail par eux contemplé, au cours des repas intimes, et qu'ils baisaient à l'épaule, au coude, au poignet, ne nous offre pas le divertissement de son... La phrase, attends, j'aimerais bien quand même, j'aime bien comprendre. Ah oui, je vais la lire pour qu'il y ait du sens, hein. Alors on y va, je reprends. Le vieux tricot de laine cramoisie que nous portions à l'heure des conversations tendres et familières, aux instants de notre travail par eux contemplés, au cours des repas intimes, et qu'ils baisaient à l'épaule, au coude, au poignet. Ce vieux tricot ne nous offre pas le divertissement de songer à le quitter lorsque, chancelant, amputés d'eux, nous recommençons à faire nos premiers pas sur la terre qui nous les a dérobés et qui, en tout lieu nous semblera funèbre, nous pouvons revêtir désormais la robe décrochée au hasard dans l'armoire. Nous pouvons poser sur nos cheveux un chapeau garni de plumes de rouge-gorge ou de pourpre camélia, sans nous préoccuper de notre aspect qui ne nous tient plus à cœur. Les malheurs sans guérison ne se révèlent pas aux passants, ni même à nos relations superficielles. Ils n'ont pas de registre dans la loge du concierge ni dans le vestibule de nos maisons. Le meurtre qu'ils ont exercé sur nous demeure notre secret et notre inépuisable savoir. À partir de la mort de mon père, cessèrent chez nous, jusqu'au moment des premiers bals pour notre présentation dans le monde, les cordiaux et plantureux déjeuners du dimanche, auxquels mon père prêtait une attention solennelle qui n'eût jamais admis de négligence. Ces repas, d'une abondance que l'on a peine à se représenter aujourd'hui, me firent connaître les écrivains et les personnalités françaises les plus en vue, les hommes d'État étrangers, réputés ou craints dans leur patrie. J'appris aussi ce qu'est l'idolâtrie, en regardant, toujours entouré, M. Carreau, le philosophe spiritualiste, au visage onctueux et paterne, qu'un trait trompeur de la nature avait marqué d'une lèvre finement narquoise. Aimant et aimé, M. Carreau inspirait ce respect que suscite le titre officiel de penseur. Il voyait ses cours suivis par les femmes les plus belles comme les plus étourdies. On les avait nommées les Carolines. Ma mère, très attachée à M. Carreau, initiée à sa facile philosophie par son livre célèbre intitulé « L'idée de Dieu », lui témoignait une amitié si réelle qu'elle se rendit à son chevet de mourant et tout en larmes nous rapporta comme un propos sublime cette phrase par laquelle il lui décrivit les affres de l'angine de poitrine. J'ai autour du cœur comme une cuirasse de sanglots. Pourtant, par l'absence de brigues et d'artifices, ma mère échappait à la dénomination qui englobait les Carolines. La salle à manger de l'hôtel de l'avenue Hoche semblait être présidée par une vaste et précieuse tapisserie des Gobelins représentant un Assuérus redoutable, mais rose et azuré, comme l'aurore sur les mers du Sud et au pied de qui défaillait une pathétique Esther nuancée comme un pâle Volubilis. Le décor de cette pièce spacieuse me déplaisait par les tons heurtés de la peluche bleue des rideaux voisinant avec des stores coulissés d'un rouge de pavot qu'égayait pourtant le soleil de midi. Autour de la table, je voyais se réjouir, se gorger de viande solide, subtilement accommodée, le comte Gourovski, polonais grisonnant, large et ventru, qui, avant le repas, me serrait paternellement sur son ample plastron. Ma robe de velours rouge garnie de dentelles d'Irlande s'épanouissait au-dessus de sa chaîne de montre à breloques, tandis qu'il me révélait un sourire de fauve dont les dents auraient connu les soins et l'or de quelque dentiste de la jungle. Dans l'ombre de ce géant se dessinait en sombre découpure un Hongrois, au bref visage couturé par des duels galants ou politiques. Un Italien renommé, bien que suspect, spécialisé dans l'astuce, que lui-même signalait ingénument, et dont la finesse et la ruse trop vantées devenaient à son insu une leste bonhomie aux francs aveux. J'étais intrigué par le ministre de Hollande à Paris, personnage gourmet et taciturne qui portait le titre inusité de chevalier. L'ambassade de Russie nous était comme naturellement délivrée le dimanche par le court trajet qui reliait l'église russe située rue Daru à l'avenue Hoche. Nous assistions presque toujours à la cérémonie religieuse orthodoxe et rentrions chez nous avec les conseillers et attachés, messieurs de Kotzebue, de Friedrich, Narishkin, de Giers. Je remarquai, dès ce moment, qu'un ambassadeur et son entourage sont une nation en voyage, qui fait halte, selon les ordres de son gouvernement, en telle ou telle ville où ils impriment par leur apparence, leurs vocalises, leurs usages, imperceptiblement mais profondément différents des nôtres, l'image de leur race tout entière. J'ai vu des femmes slaves, décoratives ou fascinantes, évoquer mystérieusement pour moi un visage de vieux bouc à favoris et à monocle tel qu'apparaissait le baron de Morenheim, ou s'apparenter par la silhouette à un svelte comte balte. Les diplomates, en fonction ou en retraite, étaient assurés du plus grand succès auprès de ma mère. Élevés à Londres, dans l'érudition, les minuties et les scrupules des préséances, elle se plaisait à ne pas commettre d'erreur et assignait sans se tromper à chacun de ses fonctionnaires altiers et susceptibles la place à laquelle il avait droit. Ma mère ne dédaignait pas les distributions exactes des honneurs, non qu'elle leur accordât une valeur positive ou qu'elle mît quelque croyance en les vanités. La musique, la poésie, la beauté, une religion sans pesanteur, évangélique et sereine, l'avaient vouée au culte d'un Bach, d'un Mozart, eût-il été cheminot. Non qu'elle mît quelque croyance en les vanités, mais parce qu'elle recherchait en ses actions la justesse et la perfection. Nous l'entendîmes parfois citer avec force le livre de la pairie qui faisait loi en Angleterre et à l'ambassade de Londres, de la même manière dont elle eut nativement et par hérédité soutenu les dialogues où s'impose la logique de Socrate. Mon père, lui, avait, pour les réunions fastueuses autour de sa table, ainsi que pour l'accueil qu'il faisait à ses hôtes d'Amphion, une inclination qui tenait du digne amour du décor, d'une sorte d'éloquence dans l'organisation, à quoi se mêlait le besoin de voir croître autour de soi le bonheur dispensé par sa puissance. Je ne pourrais affirmer qu'une ancestrale habitude de commandement, une réminiscence des palais et des parcs d'Orient, le souvenir des réceptions et des calèches de Napoléon III ne s'épanouissait pas en lui dans les moments où ses efforts aboutissaient à un agréable triomphe. Bien que j'éprouvasse fugitivement une fiévreuse fierté à regarder mon père se réjouir de ses réussites opulentes, mon plaisir cessait et faisait place au plus vif chagrin lorsque je voyais ma mère s'infliger, pendant la semaine, l'obligation de visites à faire en série compacte et épuisante. À peine le déjeuner terminé, elle revêtait ses toilettes absurdes, spirituelles et despotiques qui comprimaient la créature de toutes parts. Depuis le pied, étreint dans des chaussures boutonnées haut, jusqu'à la main, engourdie dans le gant étroit qui massacrait la paume et la faisait bomber entre deux boutons de nacre, et à la voilette, mouchetant le visage d'un semi-chenillé ou de minimes grains d'acier, tout était recherche galante et insensée. Ma mère se rendait ainsi parée au jour des personnes avec qui elle était en relation. Le jour. Fétichisme inimaginable et en ce temps formalité d'un code indiscuté. On allait révérencieusement au jour d'une Napoléonide, princesse impériale, mais non avec plus d'empressement qu'à celui de Madame Dubois, née Camille O'Meara, jadis élève aimée de Chopin, chère à tous les musiciens, et qui, à son jour, modeste mais noblement fréquentée, offrait des macarons savoureux soudés à un mince papier qu'accompagnait un thé pâle versés dans des tasses de chine modiques, récemment déballées et arrachées aux copeaux d'un arrivage d'Extrême-Orient. Au cours de telles réunions, auxquelles ma mère m'emmenait parfois, je me promis de ne jamais me mêler plus tard à ces rencontres conventionnelles compliquées de souvenirs politiques coloniaux. J'avais trop sincèrement souffert d'impatience au jour de Madame Gavigny de Campille ou de Mademoiselle Olga de la Grenée, l'une ancienne préfète du Second Empire, l'autre sœur vaniteuse d'un explorateur mort au loin de la fièvre jaune. Je compris que j'étais venue au monde pour une tâche ample et rude qui n'autorise pas les stériles loisirs et, par rapide discernement, me les montrait dénuées de séduction. Le puissant et opiniâtre travail qui agissait en moi pour maintenir et développer le germe individuel, parallèlement à une amitié humaine si prodigue qu'elle put m'anéantir en faveur d'autrui, composa le drame confus de mes plus jeunes années. La mission que je sentais m'avoir été confiée par le destin m'enjoignait de persévérer lorsque passaient sur mon cœur les heures sombres, de ne point fléchir, de m'acharner, et en même temps s'établissait en moi ce profond grief contre la vie. Cette hostilité envahissante et résolue, ce reproche réfléchi qui me faisait soupirer souvent dans la langue allemande de mes gouvernantes, c'est « Ich möchte sterben »« Je voudrais mourir » qu'un soir à 20 ans, heureuse et orgueilleuse au bord d'une loge, j'entendis à ma première audition de Tristan jaillir de la gorge, soudain divine, du célèbre ténor Van Dyck, ange énorme, tout éclatant, du génie, de Wagner. Vivre et mourir. Revivre davantage. Mourir sur l'altitude. Tel fut le vœu de mon enfance. Les Grecs utilisent la mort, lit-on dans un des cahiers de Barès. Combien est juste pour moi cette affirmation. Toutes les forces subconscientes, loyales et rusées de mon être, se sont appliquées à construire une vie qui, par ses réalisations, son obédience à je ne sais quoi de céleste, permit la mort auguste, fut-elle obscure et sans témoin. Dans mes très jeunes ans, pendant nos jeux, sur une prairie, au bord du lac, je me souviens d'avoir raconté à mon frère et à ma sœur ce que serait mon destin. Prophétie mélancolique, où j'eus par visions éblouissantes ou orageuses la divination du plus beau et du pire. Image redoutable dont j'acceptais tout. Certitude de constance, de hardiesse, d'usure fructueuse, qui se mêlait à ma douleur d'humble enfant, mais qui me faisait regarder avec stupeur la gouvernante brutale qui me réprimandait. Se peut-il, songeais-je tristement, quelle offense en moi, ce qu'il faudra bien que je devienne et que je sois? Quelle différence y avait-il entre la petite fille sage et distraitement grondée et la future adolescente qui, par inclination et assiduité, voulut tout posséder et tout donner? Aucune. Les gouvernantes un jour disparurent. Le sort prit leur place. Il maltraita, autant qu'il l'avait comblé, la créature puissante et faible. Il la maintint au-dessus des naufrages où elle apparut, ainsi qu'une Ophélie combative, sauvant ses fleurs et dont la voix toujours s'élève. Il lui accorda d'espérer que soit vraiment exacte cette ultime promesse. Les Grecs utilisent la mort. Chapitre 8. Mon amour de la foule, déjeuner dominicaux, désir d'enfant, le corset et les liqueurs, la silhouette, l'embonpoint des sylphides, de l'église russe à la chapelle espagnole, lucide mélancolie, la promesse du Bosphore. Le luxe amical et prodigue dans lequel, petite fille, je voyais mes parents et leur entourage se mouvoir, développait rapidement chez moi, par l'observation et par de subites tristesses, le goût de la méditation, des groupements familiers, des repas pris dans l'intimité. Non pas que devrait m'abandonner le plaisir et la vigueur que me communiquèrent toujours les foules. J'ai aimé et j'aime l'agora. L'affluence humaine a pour moi un seul visage, un seul cœur. Qu'il s'agit d'atteindre, de forcer, de convaincre. Attraction de la multitude, circulation sanguine, étendue et unifiée, débats et triomphes sur le forum. Moi, si souvent l'ami du silence, de la torpeur rêveuse et de la mort, je ne cesserai, vous, attraction de la multitude, circulation sanguine, débat, de vous louer et de me complaire à vos fêtes tumultueuses et fécondes. Aussi ai-je souvent pu rassurer des amis qui s'excusaient du nombre de leurs convives, dont ils craignaient que je ne fusse importunée par ce sincère aveu. Je n'aime pas jouer devant des banquettes vides. Probablement dans mon enfance, étais-je incommodé en ces dimanches cérémonieux que je viens de décrire par la hâte qui nous précipitait hors de l'église russe dans le salon et la salle à manger où éclatait la joie bruyante de nos hôtes, vieux écoliers à l'heure de la récréation et qui subodoraient la fin du jeûne. Épanchements émouvants, mais non sans niaiserie, de collègues qui échangeaient des poignées de main heureuses et se félicitaient mutuellement de se rencontrer. J'étais stupéfaite du rire aux nombreux échos suscités par des conversations dont je ne discernais ni le divertissement ni le droit à l'hilarité. Confuse de l'intérêt que j'inspirais à quelques-uns de ces ogres, dont la main distraite s'abattait sur la mienne, l'engloutissait et la tenait captive, je souhaitais être invisible. Parfois, imbu de la certitude que ma personne ténue, au bout d'une table si grande, disparaissait, je me repliais sur les mets qui, pendant près de 2 heures, circulaient, et je me gorgeais imprudemment d'aliments dont me plaisaient l'aspect, l'arôme et la saveur. Non seulement l'enfant aime manger, et la succulence inspire ses facultés imaginatives, mais tout ce qui le séduit dans la vie par tous les sens, il voudrait le porter à ses lèvres et l'absorber. Quel enfant n'a souhaité boire l'eau de pluie, déguster la neige, mordre les bourgeons où repose, âcre, entassé, chiffonné, l'avenir de la rose, broyer la châtaigne incomestible, lutter contre l'écorce qui enferme d'étroits univers, la meurtrir et la vaincre? Ce désir de happer, cette jouissance gustative, la sournoise satisfaction de dissimuler en soi ce que l'on convoite et de s'en rendre propriétaire, est certainement la formule de tout désir. Néanmoins, ce sont bien des souvenirs sans joie que m'ont laissé les réunions insouciantes et gloutonnes du dimanche, où, vers la fin du repas, le teint délicat de ma mère se colorait de vif carmin, comme si l'évaporation des Bordeaux et des Bourgognes avait embué son beau visage et fait d'elle, par traîtrise, une bacchante, novice et décente. assemblée dont je ne concevais pas la nécessité, mais intéressante si j'y pense, où des hommes aux joues pourprées, aux cheveux drus, aux corps alourdis mais résistants, ou bien secs et onduleux, révélaient toute l'énergie physique d'une époque à la fois laborieuse et futile. Les hommes attachés à leur charge, les femmes à leur devoir de maîtresse de maison, qui comportaient des allures de coquette, provocante, plus souvent chaste, ne cédaient pas à la mélancolie, ni au ménagement de soi, ni au souci de leur préservation. Époque où brillaient chez tous ces gens affairés, galants, voraces et repus, les vertus incorporelles. Hommes et femmes auraient pu réclamer, en faveur de leur brillant courage, le témoignage de tortures et de délices, également ennemis de la nature, le corset et les liqueurs. Mon enfance s'écoula dans un paysage humain où les gorges et les croupes féminines, livrées à la pression du corset que ces innocentes croyaient aptes à résorber, ce qu'ils ne faisaient que répartir curieusement, n'entravaient ni les élans, ni les gestes intrépides, ni la candide sécurité de l'âme dans l'amour. J'ai vu des corps féminins débordant de proéminence se hisser légèrement et dès l'heure matinale sur le marchepied des breaks, s'installer l'ombrelle à la main sur d'étroites banquettes, heureux d'entreprendre dans un bruit de grelots dont résonnaient le postillon et les chevaux harnachés l'ascension de quelques collines abruptes recélant un monastère au parfum de plâtre et d'abandon. Là, on vénérait le chapeau de saint François de Sales, le prie-dieu de sainte Chantal. Je les ai vus, ces femmes espiègles et rebondies, enfourcher des ânes, choisir robustes, et s'amuser des ruades provoquant un nuage de poussière. Je les ai surprises, à l'aurore, se baignant dans le lac angélique et transparent, hymne d'azur qu'elles dérangeaient et brouillaient, en s'y élançant, sous le pudique costume de bain bleu marine, orné d'une encre brodée en fil blanc. J'ai vu, le soir, ces déesses volumineuses, sanglées dans le satin, les cheveux ceints d'une couronne de lierre ou de jasmin, chanter, aussitôt après le repas copieux, des mélodies accortes ou voluptueuses de Verdi, de Gounod, de Saint-Saëns. Amenés par surprise, grâce à nos bonnes, que la musique séduisait, jusqu'à la porte vitrée du hall, où sur une mousse veloutée s'élevaient des palmiers sur qui serpentaient de précieuses orchidées, je vis ces sylphides énormes danser au son des valses de Strauss. Elles tourbillonnaient avec la finesse de la neige silencieuse, leurs appâts incrustés dans l'habit noir d'un danseur fringant et musclé au rythme du beau Danube bleu. Je les voyais enjouées aussi et sentimentales sous le regard triomphateur de leurs cavaliers qui, vigoureux et de cœur militaire, chevauchaient la vie, ses plaisirs, ses obstacles comme une monture capricieuse que la bravoure de ces hommes entraînés était toujours prête à dompter, ce qui leur donnait une tenue d'esprit, si l'on peut dire, équestre. Les beautés, célébrées dans mon enfance, pour qui, déliré un Maupassant, se tuait d'une balle au cœur à un gentilhomme cosaque, étaient des îles charnues, dont le visage, aux traits délicats, les mains dodues, pareilles à de blanches palombes, nous apparaîtraient aujourd'hui comme des bijoux victimes d'un maléfice qui les préserverait de toute concupiscence. Mais aussi, La nourriture, considérée en ce temps-là comme salutaire, honnête et valeureuse, les vins, les cigares, les alcools, entretenait chez les hommes, avec la hardiesse et l'élégant libertinage, un sentiment de l'honneur dans l'amour, qui faisait d'eux des amants courtois et sûrs, dévoués à leur conquête féminine, comme un officier l'est à son épée. Il est curieux de songer que le mot « silhouette » est à peu près absent du vocabulaire de l'époque. Des membres déliés, un visage gracile, étonnait et déconcertait. La ravissante mademoiselle Van Zandt, cantatrice nordique qu'accompagnait sa robuste mère et que je connus au bord du lac quand j'avais 5 ans, était, par son charme fragile, le sujet de toutes les conversations. On l'aimait, poétiquement, on la plaignit, avec une particulière ardeur, lorsqu'elle dut interrompre définitivement ses représentations à l'opéra comique, où, un soir, elle apparut chancelante dans l'acmé, ayant absorbé, comme à son ordinaire, d'incalculables coupes de champagne qui, cette fois-là, eurent raison de sa résistance diaphane et dorée. L'embonpoint des femmes, glorifiées par l'adoration de leurs amants, n'éveillait les propos satiriques que si le corps épanoui s'était désigné à l'attention par quelque singularité de l'esprit. C'est ainsi que j'entendis de légers sarcasmes dirigés vers les formes excessives de 2 personnes. Dont les torts n'étaient point dans leur aspect, mais consistaient à n'avoir pas craint d'afficher des opinions voyantes, l'une dans la violence, l'autre dans la vertu rehaussée de solennité ecclésiastique. En effet, mademoiselle Marianne Svistinov, aimable russe révolutionnaire, se réclamait du nihilisme et la chanoinesse de Phodoas, vieille fille, infatuée de son ascendance nobiliaire, avait obtenu par des intrigues romaines le titre religieux qui l'autorisait à porter en tout temps sur ses vêtements une large croix en diamant qui soulevait par son étrangeté dans les réunions mondaines une réprobation unanime. Nos déjeuners du dimanche étaient, je l'ai dit, précédés d'une station à l'église russe. La fumée des encensoirs y était dense et comme épicée. Elle me touchait moins que celle que je respirais les jours de la semaine à la chapelle mi-espagnole et mi-anglaise de l'avenue Hoche, étroite église sévère, où nos bonnes et nos gouvernantes catholiques retrouvaient leurs collègues et parlaient à voix basse, mais d'abondance, au-dessus de la tête de leurs élèves hébétés. La chapelle, alvéole religieux essaimé des villes saintes d'Avila et de Tolède, plus encore que de la plaintive Irlande, avait pour règle la pauvreté. On y voyait circuler de sombres prêtres tonsurés et rasés dans un ton bleu indigo, et qui portaient sur d'énergiques et pâles visages aux yeux d'ardents picadors les traces de la mortification. C'est entre les murs de la chapelle ascétique que je connus la crèche de Noël, exposée en décembre et janvier. Petite scène ingénieuse où était représenté avec un mécanisme de jouet le défilé des rois mages, le salut du bœuf et de l'âne, la palpitation de l'étoile, qu'un carillon mélancolique enveloppait d'une poésie captivante et triste. Au contraire, sous les dômes dorés de l'église orthodoxe ayant pour chef le tsar, régnait le protocole des cours. Seul l'ambassadeur de Russie, et parfois quelques grands ducs de passage,
avait devant lui une légère chaise dorée sur laquelle il s'appuyait élégamment de la main, sans jamais s'y asseoir, tant par respect pour le service religieux, les icônes pathétiques et illuminées, que par une bienséante courtoisie à l'égard de femmes et d'enfants constamment debout. Grâce aux chants séraphiques que des voix d'adolescents faisaient retentir sous l'œil menaçant d'un maître de chapelle, je supportais la fatigue d'un équilibre épuisant et j'eus le loisir de rêver, d'espérer, de désirer à l'église russe. En ce salon de Dieu, parfumé de résine et de bergamote, toute petite fille, je fis gravement, avec réflexion et ferveur, une prière pour que Dieu m'accordât un jour de posséder un enfant né de moi seul. D'où pouvait venir, chez une créature si tendre et qui, par tous les charmes de l'univers, pressentait l'amour, cet ingénu et obsédant souhait? J'aimais les poupées, je prêtais à leur immobilité l'animation de ma propre existence. Je n'eusse pas dormi sous la chaleur d'une couverture sans qu'elles aussi fussent enveloppées de laine et de duvet. Je connaissais des moments de bonheur sans défaut dans le silence de cette unité. Je rêvais de goûter vraiment la pure solitude dédoublée. Il me semblait aussi que les hommes, dont ma mère, je l'ai raconté, me faisait gaiement l'offre matrimoniale, éveillait le trouble et le désordre dans mon esprit. Je crus donc que j'assurais mon bonheur en implorant cet enfant identique à moi, sans intrusion d'autrui et sans mélange. Plus tard, bien plus tard, observant la désharmonie que présentent les couples humains et découvrant en leur descendance le désarroi causé par la transmission des dons et des imperfections, j'ai pu dire que la plupart des enfants me semblaient être un divorce vivant. Ce besoin de persister intact, d'être deux fois moi-même, je l'éprouvais avec avidité dans ma petite enfance. Ah, que j'ai souhaité dans les instants tragiques où ma douceur rêveuse était le jouet des injurieuses bonnes, avoir à mes côtés une autre petite Anna qui jetterait ses bras autour de mon cou, qui me consolerait, me comprendrait, soutiendrait le cœur et l'orgueil si fréquemment blessés et abaissés des petits êtres. Cette pauvre enfant compatissante, toute pareille à ce que j'étais, dont j'ai tant appelé la compagnie, s'est en effet un jour révélée à moi. Au cours de la vie, je la rencontrai en mon cœur et je la retins fortement. Elle me secourut, non sous la forme de la consolation que j'avais espérée, mais sous celle du courage, le seul bien que le sort puisse déposer dans un des plateaux de sa prodigue mais injuste balance. La mort de mon père, en me séparant de cette vie de réceptions et de fastes, où une sorte de philosophie heureuse s'apparentait, d'une manière noble, aux orchestrations et aux quadrilles étourdissants d'Offenbach, me laissait languissante, et j'eus une peine extrême à continuer d'exister. Je vivais dans une mélancolie que ma mère approuvait d'un regard profond et tendre, et pour laquelle m'estimaient nos amis, veillant à la réparation de la déchirure familiale. L'amour, comme la dignité, avait été offensé en moi par la mort de mon père. Aux Champs-Élysées, où l'on nous menait, dans l'espérance de grand air, et dont je ne sus jamais goûter les petits théâtres de Guignol, la voiture aux chèvres, les boutiques bariolées par leurs bâtons de sucre d'orge vert et rouge, que surveillaient des matrones délurées, misérables copies du bonheur, je cessais bientôt de vouloir me mêler aux autres enfants. Pourquoi êtes-vous habillé en noir ? M'avait demandé un jour une petite fille, robustement installée dans des vêtements clairs et gais. Le questionnaire des enfants adressé à d'autres enfants est toujours celui d'un soupçonneux investigateur, d'un sévère policier. Elle insistait. Je dus avouer que j'avais perdu mon père. « Moi, j'ai mon père et ma mère, » répondit avec orgueil et confort la petite fille, à qui rien ne manquait dans l'ordre social du cœur. Je vis bien que je lui apparaissais comme une créature appauvrie par son deuil, participant d'un foyer négligent et sans prudence, d'où on laissait s'évader ce que la demeure possède de plus humainement solide, le père. Le père, régime et gouvernement du foyer, obstacle à l'invasion, réponse aux défis, et garantie superbe contre les peurs chimériques ou le réel danger, constitué en ce temps-là par l'incendie et les chevaux emballés. Ma mère, soumise au hasard qui distribue dès la naissance les inquiétudes, ne fut pas hantée par l'incendie, mais elle ne cessa jamais de l'être par les chevaux emballés. Bien longtemps dans ma vie, je fus entraînée par elle à chacune de nos promenades à pied dans les taillis bordant les routes, tant elle croyait qu'une voiture qu'elle apercevait au loin nous menaçait par son correct ou chétif coursier. Jeune fille, nous ne montâmes jamais dans notre landau attelé des magnifiques chevaux Balthazar et Pluton sans demander à Dieu de nous garder du péril dans lequel nous nous étions engagés. Les mois passaient. Souffrante, je trouvais indiscernablement dans la douleur physique, subie avec courage et comme biffée par l'esprit, une diversion à l'oppressante nostalgie que j'avais de la présence de mon père. Je n'oubliais pas que lui, le premier, me fit écrire ses narrations qu'il lisait à haute voix dans le salon d'Amphion, éveillant ainsi ma destinée. Ma mère s'était montrée aussi charmée que lui à la lecture de ses récits puérils, mais elle craignait pour moi la fatigue. Je dois confesser que la phrase coutumière « Cette enfant est trop intelligente pour vivre » qui, bien entendu, ne pouvait être prononcée par mes parents, mais qui était lancée distraitement par mes bonnes, m'emplissait d'une terreur que je n'hésitais pas à croire justifiée. Je dirigeais alors vers la fenêtre de ma chambre du chalet d'Amphion, qui offrait le spectacle du ciel et du jardin heureux, un regard tout empli du désir de ne point leur dire adieu. Néanmoins, malgré la tristesse, le temps qui s'écoulait amenait ses diversions et ses projets. Par un enchaînement de souvenirs et de rêveries, ma mère, privée désormais de son compagnon inventif et dominateur, souhaita revoir son père, qui habitait un palais de marbre bleu à Arnaout-Queuilly, sur le Bosphore, dans les environs de Constantinople. Le Bosphore, phosphore, phosphorescence, toutes ces syllabes lumineuses, soudain, m'éblouirent, m'envahirent, ne me laissèrent plus de repos. Désormais, je ne songeais qu'à ce départ vers le Bosphore. Je me préoccupais, sans me laisser distraire de mon plaisir par les dédains de ma sœur, enfant farouche et taciturne, des robes que l'on nous avait commandées pour notre séjour en Orient. Je les voyais étalées sur le sofa du petit salon de ma mère, qui les faisait approuver par nos amis et par nos tantes, toilettes enfantines, noires mais luisantes et à reflets, en cora, mot ravissant, qui aujourd'hui s'appelle pongé, en surat merveilleux, devenu crêpe satin, en popeline, en sicilienne, en ottoman, enfin en alpaga, vision et vocable qui faisait bondir mon cœur par ses étincellements de fils vernis et légers. Aujourd'hui encore, l'alpaga évoque pour moi les délicieuses et pénibles chaleurs du plein été, ces journées où la créature, mêlée à l'atmosphère, ne redoutant plus ses rigueurs, se familiarise avec elle et, comme les plantes, fait avec elle de confiants échanges. Chapeaux nombreux aussi, en paille d'Italie ou en paille de riz, inclinés sur les yeux comme un auvent délicat, ou hardiment relevés sur le front par un panache de plumes, pareil à ceux qui décoraient les coiffures des héros de l'an II. Il est, dans le destin de l'homme, d'être soumis à toutes les variations brusques. Fils dédaigné de la nature, il est précipité du plaisir et de la quiétude dans la douleur, traîné cahotant sur la route, arraché à toutes ses racines, conduit jusqu'au bord de l'abîme, puis replacé tout à coup dans un éphémère et rassurant paradis. Nous avions souffert misérablement jusqu'à être désaccoutumés de nous-mêmes, et soudain, la promesse du Bosphore fit renaître chez moi l'instinct du printemps, de la poésie, le délectable désir de plaire. À qui voulais-je plaire? Au Bosphore. Il y a, chez les petites filles passionnées, deux formes songeuses de l'amour, l'une pour un être, et je l'avais éprouvée déjà douloureusement au contact du rapide et négligent baiser d'Alexis, le jeune batelier d'Amphion-la-Rive, ainsi que pour un petit monsieur de Lesseps, âgé de 13 ans, qui suivait avec nous les cours de gymnastique du pittoresque espagnol, monsieur Lopez, rue du Colisée. Je l'avais ressenti pour le consul britannique à Genève, ivrogne roide, énigmatique et respecté, pour un condisciple de mon frère au lycée Janson, dont je ne connaissais pourtant que le nom, Roger Després, syllabe délicieuse. Pour le très jeune comte Hoyos, rose autrichienne, entrevue à une première leçon d'équitation. Enfin, j'avais été séduite par l'image de Roland à Roncevaux, que me présentait un beau livre reçu en cadeau le jour de l'an et que l'on me permettait de conserver le soir sous mon oreiller. L'autre amour qui m'envahissait s'adressait au paysage, aux cités inconnues, à l'espace, à l'espérance, à l'aventure. J'avais aimé de cette manière le bateau à vapeur, le Rhône, qui faisait le service d'Évian à Genève et sur lequel j'avais été embarqué un matin d'été dans une odeur stimulante de goudron, d'huile, de soleil et de vent. L'indicible plaisir que m'avait dispensé la robuste allure du bateau le Rhône, faisant jaillir à ses côtés une eau écumeuse, je le retrouvais vague et puissant dans la passion qui naissait en moi pour le Bosphore. Ah, s'il n'y avait pas eu un seul petit garçon sur la terre, si la nouvelle m'avait été annoncée que le monde ne serait peuplé désormais que de petites filles, je n'eusse certes pas souhaité voir se lever le soleil du lendemain. Mes robes m'eussent inspiré l'indifférence. Je n'aurais pas été heureuse à bord du Rhône. Je n'eusse pas désiré le Bosphore. Mais, laissant s'estomper dans mon cœur l'image des humaines amours enfantines, je souhaitais réellement séduire l'espace et plaire au Bosphore lui-même. Chapitre 9. Valse viennoise, le plat national, Constantinople, le sérail du sultan, sous la moustiquaire, les cancans d'Arnaout-Queuilly, les admirations littéraires de l'oncle Paul, à la porte de Victor Hugo. Un soir de juillet, nous partîmes pour Constantinople. Une halte devait nous retenir à Vienne, une autre à Bucarest. Ma mère se faisait accompagner de la sœur aînée de mon père, d'un secrétaire ou, en ce temps, intendant, du nom de Monsieur Dejean, sorte de vigoureux notaire limousin, au poil dru et gris, à la voix râpeuse, dont les formes épaisses étaient confortablement modelées par des vêtements usagés, de notre gouvernante allemande, d'une femme de chambre et d'une quantité prodigieuse de mâles. Les mots « excédent de bagages » dont je ne comprenais pas bien le sens et qui amenaient des réprimandes de la part de ma tante et des récriminations du personnel des gares frappèrent mes oreilles jusqu'à notre arrivée dans l'antique Byzance. Appelés par l'Orient et craignant d'y arriver tard, alors que nous y étions attendus, nous restâmes à Vienne moins d'une semaine. Ma mère, épanouie dans sa beauté claire, aux yeux couleur d'abeille, aux cheveux châtains que les toilettes noires mettaient en valeur, comme un sombre feuillage relève le ton des pétales, prit un vif plaisir à parcourir la ville célèbre pour sa grâce. On nous emmena dans les restaurants renommés où le schnitzel fameux, dont on nous démontrait l'apprêt inimitable, me causa la déception de n'être tout de même qu'une escalope de veau. Les magasins, papillotant de multiples et menus objets, enchantaient ma mère, qui nous rapportait de ses courses onéreuses dont elle ne perdit jamais l'habitude, ses bibelots viennois de jadis, d'un mauvais goût poétique si prisé. Par exemple, une rose en porcelaine soigneusement coloriée contenait au centre de la fleur un petit flacon empli de son parfum. Installée à l'hôtel Zacher, ma première impression de ce séjour fut la surprise que me causa mon lit, d'où ne cessait de glisser une couverture de soie piquée sur laquelle était rabattue, par des boutonnières attachées à des boutons de nacre, un drap de toile festonné. Les Viennois, au temps de mon voyage, s'étendaient sur un mince matelas. Puis, allongés sur eux cette étroite courte pointe, dont ils se satisfaisaient, si instable pourtant, que je passais mes nuits à la ramasser, à la replacer sur moi. Un lit fait, ou défait en France, évoque la netteté moelleuse, ou bien la paresse, le désordre, la volupté. Mais à Vienne, lorsque petite fille je m'y arrêtais, le lit était une élégante planche à repos qui ne pouvait suggérer que l'image d'un consciencieux sommeil. Je m'étais réjouie à la pensée de voir le prater, longue étendue de bocage, qui est à Vienne, ce qu'est à Paris le bois de Boulogne. Ayant, dès le commencement de ma vie, entendu ma mère jouer les valses de Johann Strauss, le prater, leur domaine, me semblait un lieu d'enchantement. Je connaissais si bien le moment où ma mère, ayant fait jaillir du clavier les sanglots et les arcs-en-ciel de Beethoven, les spirituelles mathématiques de Mozart, l'architecture de Bach, enfin, tout ce que Chopin contient de rêveuse, héroïque et sensuelle hypocondrie, je connaissais si bien donc le moment où ma mère se reposait de la musique magistrale en installant sur le pupitre du piano un cahier des valses de Strauss. J'aimais ces feuillets légers, illustrés d'un gai dessin en grisaille, où l'encre d'imprimerie débordait généreusement des silhouettes enlacées, et qui portait les titres de Wiener Blätter, Wein, Weib und Gesang, Man lebt nur einmal.
Note de la lectrice, traduction, les feuilles viennoises, le vin, la femme, les chansons, on aime seulement une fois.
Par leurs trois temps inégaux, leurs moments de suspension langoureuse, les valses viennoises venaient avec élégance provoquer la romanesque passion. Ce rythme de l'attente et de l'abandon précipitait le souffle, l'arrêtait, prêtait aux rêves innocents de l'enfance la suffocation du plaisir. Nous allions donc connaître le prater. Mais comme nous étions entassés en trop grand nombre dans un landau découvert et attristés par la solitude que la saison d'été faisait peser sur la capitale et ses environs sylvestres, je n'eus, des parcs et forêts réputés, qu'une impression de mélancolie. Le vent chaud de juillet faisait déjà voler et tomber à terre des feuilles grillées, roussies, cependant qu'un grêle orchestre, attaché à un cabaret rustique, consentait à donner leur vol à quelques phrases musicales que les tziganes distribuaient avec négligence dans une atmosphère cuisante et déserte. Le voyage se poursuivant, nous arrivâmes à Bucarest après avoir vu, par les fenêtres du wagon, de petits enfants bruns entièrement nus qui nous faisaient rougir et baisser les yeux lorsque, souriant, ils tendaient vers le train, lentement en marche, des branches de cerisier aux feuilles fanées, aux fruits vifs. Nous craignîmes de nous trouver dans un pays où la pudeur n'est point en usage. Je connus à peine Bucarest étant tombée malade et privée cruellement de la visite faite par mon frère et ma sœur au parc de Szismégiu, que son lac rendait célèbre. Un lac, pour moi quel mot, quelle vision, l'eau, élément rêveur, allègre, palpable, assimilable, miroir du ciel, chemin des indolents voyages, m'enivrait, et par le jardin et le lac d'Amphion, me plongeait dans les songes. « Il y a des jours qui sont des îles !» écrivait dans un volume de sa jeunesse Maurice Barrès. Cette phrase évoque des instants de vie paisible, voluptueuse, à l'abri de toute menace, protégée par la tiédeur, la solitude et le silence. Mais autour de ces îles heureuses, je n'eusse pas voulu la mer, inquiétante en son infinité, et que, malgré sa fertile senteur, respirée un été sur les bords de la Manche, je n'aimais pas. Mais les îles, c'était pour moi les rives d'un jardin en fleurs, devant lequel l'eau paisible, limitée par un horizon délicat, étend des promesses de bonheur, cependant que d'invisibles sirènes veillent à la sécurité d'un couple refermé sur lui-même. En arrivant à Bucarest, j'avais été surprise de l'allure des attelages, pareils, me dit-on, à ceux de la Russie. Des cochers endiablés, chevelus, barbus, soulevaient le galop de leurs chevaux dans des cerceaux de poussière, comme ils le faisaient en hiver dans les tourbillons de neige. Un matin, on me conduisit, bien faible encore et vêtu du noir le plus sévère, au service funèbre plein d'emphase qui fut célébré à la mémoire de mon père dans l'église dorée de Domna Balacha. Le protocole de la douleur sur ce sol étranger à ma vie, où pourtant allait rester à jamais mon père endormi, devait nous rejeter dans l'abîme. Au milieu des tentures violettes et argentées, des prières et des lamentations des prêtres, nous sentîmes notre blessure se rouvrir et nos larmes intarissables se répandirent comme issues d'artères et de veines tranchées. Au sortir de l'église, le calme lentement se refaisait. Je regardais une ville à peu près semblable à une autre, plus coloriée, sur laquelle régnait un climat et un parfum de l'air étrange que je divisais sans m'en imprégner et dont le vocabulaire, inscrit sur les bâtiments et les magasins, m'était inconnu. Pendant notre court séjour à Bucarest, nous habitâmes d'abord l'hôtel, qui communiquait avec le somptueux restaurant Capsa, et puis la maison champêtre de ma tante Élise à La Chaussée, aujourd'hui propriété de mon frère. Je vis parmi des arbres nombreux et légers qui offraient en pâture au soleil leur feuillage grésillant, un sapin vert, persévérant et solennel, qui rêvait en ce coin du monde, comme j'en avais vu rêver dans tous les lieux de la terre où j'avais passé. Le sapin, le cèdre, la rocaria, par leur aspect méditatif, leur vigueur paisible et noble, ont sans cesse retenu mon attention. Je vénère en eux les mages au cœur conscient du monde végétal. La tante Élise nous annonça un matin que nous ferions connaissance au repas de midi avec le plat national, la mamaliga. Ces seuls mots, le plat national, avaient sur mon imagination une puissance étrangement évocatrice. Ils me dispensaient avec force le pouvoir d'espérer. Qu'attendais-je de ces vocables? Sans doute, je me le dis aujourd'hui, un résumé de tout le pittoresque d'une contrée et d'une nation ignorée, la révélation du charme même d'un peuple et de son sol, une amitié plus intime encore que celle décrite par Flaubert dans cette phrase fameuse. Il est des paysages si beaux qu'on voudrait les serrer contre son cœur. Le plat national frappa toujours ma pensée autant qu'un nom de fleuve attaché à sa ville. Rome et le Tibre, Vérone et l'Adige, Madrid et le Manzanares, Londres et la Tamise, tous ces poétiques hyménées, je les retrouvais mystérieusement dans la saveur de l'aliment populaire. C'est par les fleuves accédant aux mers, par les denrées lointaines, aisément dispensées, que l'Angleterre, la Hollande touchent aux Indes, que Brême s'accote à Venise, que le Nord reçoit au cœur une flèche torride, entend les cris brûlants des perroquets bariolés, manie l'ivoire et les brocatelles, perçoit l'arôme d'un palétuvier. Mais, au déjeuner vanté par la tante Élise, je fus déçu et chagriné. La mamaliga, plat national, n'était qu'une rude farine de maïs sableuse, difficile à ingérer, que ne parvenaient pas à rendre agréables les condiments inusités qu'on s'était ingéniés à y joindre. Probablement, l'imagination sérieuse de l'enfant ne se trompe-t-elle guère, et se met, sans finesse, qui contente le paysan en le rassasiant, aurait-il dû me révéler les durs travaux d'une multitude d'humains laborieux et résignés qui, de l'aube à la nuit, usent leurs forces contre la terre et, au sortir du silencieux acharnement, lui sont reconnaissants de la nourriture sommaire qu'elle leur accorde, lui rendent grâce en des chants candides, contemplatifs et fiévreux. Notre arrivée à Constantinople fut, par son respect, ses extases, paradoxalement celle des chrétiens débarquant en Terre Sainte. Ma mère nous avait appelés sur le pont du bateau dès qu'on lui avait signalé à l'aurore la vue du port immense de Galata. Par les souvenirs que lui avait laissés son voyage de noces, où le sultan l'avait comblé d'honneur, ma mère, si fière de son sang crétois qu'elle en appelait aux filles de Minos, à la moindre discussion avec son entourage, s'assurant ainsi le triomphe de la raison, restait attachée à la cité fabuleuse que gouvernait Abdul Hamid. Ce souverain séduisant, ennuyé et cruel l'avait charmée par l'ascendant gracieux qu'elle exerçait sur lui. Il avait fait fléchir devant elle les rigueurs observées au sérail et l'avait présentée aux sultanes, dépouillés de leur voile légendaire. Ma mère nous racontait avec émotion cette journée passée dans un décor qu'elle nommait féerique, parmi des femmes asiatiques au visage rond, enfantin, mollement busqué, telles que Khayyam et Sadi les dépeignent quand ils les comparent à la tulipe, à la lune d'été, à un miroir d'argent. Devant ses princesses et ses esclaves ravissantes, vêtues par courtoisie à l'européenne, maladroitement enfermées dans des robes de satin broché, venues sans doute de Lyon et de Paris, ma mère donna un concert auquel le sultan se montra sensible. Pour la remercier, il lui offrit un diadème éclatant, parure incommode, que, dans mon enfance, je la vis porter avec orgueil, mais en soupirant. Ce jour du sultan fut marqué aussi par le don de la décoration la plus rare, que mon père obligeait ma mère à produire dans les fêtes parisiennes, soit qu'elle fût nouée à son cou parmi les perles, ou fixée en sautoir au corsage. Le large ruban de moire blanche, bordé de vermillon, qui retenait le pesant insigne, troublait ma mère, laquelle n'aimait pas exhiber l'exceptionnel et le fantasque. C'est de cette époque que date la possession du châle précieux dont j'ai parlé, nappe immense de cachemire blanc, qu'envahissaient en bordure les algues multicolores de la broderie la plus minutieuse. Lorsque, tant d'années plus tard, Abdul Hamid dut abdiquer et qu'il acheva ses jours dans la peur des poignards et des poisons, au fond d'un palais que cernaient l'injure et la menace, ma mère, fidèle, célébrait opiniâtrement la courtoisie et les vertus de l'homme qu'elle avait conquis par la beauté et la musique. Je me souviens de l'avoir entendu un jour d'hiver, réclamer impérieusement mais à voix basse, car, assaillie par les polémiques, elle ne savait plus s'il lui fallait mépriser ce qu'elle vénérait encore. Réclamer donc impérieusement mais à voix basse le châle du pauvre sultan. L'éclat du ciel turc et du blanc village d'Arnaout-Köy, où s'élevait le palais de mon grand-père, ne me fut révélé qu'à travers une grave maladie qui me retint couché sous la moustiquaire du lit placé dans l'immense salon dénudé qu'occupaient aussi mon frère, ma sœur et notre gouvernante allemande. Une copie agréable de « La Vierge à la chaise » de Raphaël, dans un cadre doré suspendu sur la muraille peinte d'un lait de chaux bistré, répandait sa grâce parfaite et câline sur la vaste pièce qu'ornait seulement le luxe d'un grand sofa en soie orientale jaune et grenat. Les fenêtres, disposées au sud et à l'ouest, offraient les unes la vue du Bosphore et des villages estompés sur la rive d'Asie, les autres, pareils à un regard plus sombre et plus modeste, se coloraient du vert foncé des sycomores, des figuiers, des cyprès, décorant un petit jardin qui s'élançait d'un trait sinueux sur des coteaux abrupts. Dans cette chambre spacieuse, je souffris beaucoup. Le séjour en Turquie avait gravement attaqué ma santé. La nourriture y était désirable et nocive. Dans l'extrême ennui d'une vie oisive et bavarde, la satisfaction qu'inspiraient des aliments séduisants rencontrait chez chacun une appétence déréglée. Il n'était question que de cuisine, de digestion, d'indigestion, de dysenterie, de fièvre typhoïde. Les plus chanceux, les plus vigoureux d'entre les convives guérissaient grâce à quelques journées de jeûne. D'autres se voyaient terrassés par la qualité et l'abondance des pilafs aux pois chiches, des moules géantes, des dolmas, boulettes de riz, farcies de chair de mouton et présentées dans des feuilles de vigne, des aubergines, gorgées d'huile, des pastèques glaciales. Parmi les victimes, je fus de beaucoup la plus atteinte. Il y eut une grande agitation autour de la petite fille qu'un danger mortel menaçait. Mon grand-père et mes oncles, en robe de chambre à cordelière ou en redingote correcte de coupe étrange, il est vrai, appelée à Péra Stambouline, et invariablement coiffée d'un fez, faisaient irruption dans la chambre. Leur voix, mêlée, s'emportait contre le mauvais sort qui m'avait vaincu et dépensait les forces oratoires qu'on connaît aux héros d'Homère.
À travers ma faiblesse, je les entendais lire et commenter le dictionnaire médical, dont les insensibles décrets se rapportant aux symptômes que présentait mon état me condamnaient au trépas. Cette turbulence cordiale de ma famille, naturelle à des caractères impulsifs et communicatifs, chagrinait ma pudeur éveillée, frappait mon esprit observateur et désintéressé de moi. J'aspirais simplement à moins de souffrance et j'absorbais docilement, mais avec incrédulité, des compotes de cornouilles, fruits écarlates, aigres et astringents, considérés à Arnaout cueilli comme le remède triomphal contre toute fièvre indéterminée. Rien n'était plus difficile que d'obtenir la visite du célèbre docteur Zambaco, ancien élève des hôpitaux de Paris, que se disputaient, à toutes les stations du Bosphore, les Turcs, les Grecs, les hôtels, les ambassades. Celle plus aisée du docteur Apostolides, qui habitait le proche village de Bébec, n'inspirait pas confiance et se compliquait des étrangetés de cet esprit puéril. Fier d'un uniforme militaire éclatant et fantaisiste, il s'aperçut une nuit où, appelé en hâte à mon chevet, il s'y rendit. Il s'aperçut donc qu'il avait oublié de suspendre à son côté l'épée et qui complétait son habillement. Non seulement il s'en excusa longuement auprès de ma mère, mais renonça avec brusquerie à me donner le moindre soin et retourna dans les ténèbres à Bébec, offrant de revenir en tenue martiale, irréprochable, proposition qui fut déclinée. Cependant que mon grand-père, érudit silencieux, travaillait sans répit dans la fraîche bibliothèque de son palais de marbre, à l'achèvement d'une remarquable traduction de la Divine Comédie dans le grec difficile et pur de Saint Grégoire de Nazianze, son second fils, mon oncle Paul Musurus, poète et peintre, inoccupé, dépaysé, chargé d'électricité intellectuelle et cruellement arraché à ses clubs de Londres, à ses cercles artistiques de Paris, venait me rapporter ce que l'on appelait les cancans d'Arnaout cueilli. Je pressentais sa venue en l'entendant de loin rendre la justice avec un pittoresque du meilleur aloi parmi une nombreuse domesticité grecque et turque qui se chamaillait dans les cuisines en un français barbare et limité et jetait des cris de chat blessé. Par-dessus la terrasse dorée de soleil, bleuie de glycine, qui dominait le Bosphore, je percevais ces scènes et discussions auxquelles le goût amusé de mon oncle conférait un aspect de petit théâtre populaire. Et puis, il errait, inquiet, toujours bien disant, de chambre en chambre, à la poursuite des scorpions, qu'il craignait, comme il affirmait tout craindre, y compris la disparition capricieuse et définitive du soleil. Il avait, disait-il, le courage de sa lâcheté. Enfin, il venait s'asseoir auprès de mon lit où, ne dédaignant pas mon petit âge, il prenait plaisir à m'exposer les drames qui éclataient dans la demeure voisine de la nôtre, vaste bâtisse de bois moisi, meublé de divans, abri d'une dizaine de jeunes femmes ravissantes, Eriphile, Cassandre, Smaragda, Aspasie, Euphrosine, Catina, Thémis, Espérance, Marica, d'autres encore. Ces merveilles, hélas, sans dot, ces irisations vivantes, ces roses, se fanait, ravagé par la solitude familiale dans un royaume presque exclusivement féminin. La plupart d'entre elles, non mariées, n'avaient pour but que de plaire à un homme qu'elles enchaîneraient, dont elles feraient leur époux. Les circonstances leur refusaient avec persistance cette juste convoitise. Pareilles toutes à Madame Bovary,
Modèle sans omission, elle rêvait, s'irritait, languissait, dans un nuage de désir, où se colorait la vision de villes insoupçonnées, de voyages romanesques, de plaisirs paresseux ou trépidants, mélange de variations perpétuelles et d'éternité. Qu'un seul homme s'arrêta quelques instants à Arnaout Queuilly, fut-il secrètement, et elle le savait, le compagnon obèse, soumis et inattaquable de quelque sultane, ou le conservateur vieilli d'un musée de Péra que son intelligence faisait valoir, ou encore un de ses jeunes cousins, voyageurs tout occupés d'une actrice occidentale. On voyait, dès le départ de ces porteurs d'illusions, les beaux visages féminins, rougis, gonflés de larmes, accablés par le désenchantement. Elle dépérissait, s'alitait, cessait de manger, et soucieuse pourtant par amour-propre de ne pas confier leur déception, faisait savoir par une vieille servante dévouée fanatiquement à chacune d'elles que seul un malaise digestif les obligeait à un repos prolongé. L'oncle Paul me tenait au courant des projets d'union 100 fois espérés, différés, abolis, et sa conversation chatoyante, ses remarques divertissantes et taquines, dépeignaient narquoisement les tragédies de la vie juvénile, se déchirant aux barreaux d'une inique prison. Par lui, j'apprenais aussi que Monsieur Dejean, le solide bourgeois grisonnant, qui jetait sur les rivages du Bosphore un regard sans surprise, tant il restait fidèle au Limousin et n'admettait aucune rivalité avec Userche, Tulle, Brive-la-Gaillarde, avait fait son choix platonique dans le parterre de fleurs que représentaient les jolies filles de notre famille. Content du jeu de mots que lui fournissait sa prédilection, il ne cessait de répéter avec une grandiloquence satisfaite: je me suis livré pieds et poings liés à Thémis. La charmante Thémis, brune à corte, aux yeux d'antilope, fière d'une gorge et de jambes parfaites, unanimement vantée par sa famille, vierge robuste qu'on eût choisie pour être l'héroïne d'une églogue radieuse, riait de ce triomphe négligeable, sans toutefois le dédaigner absolument. J'eusse été bien malheureuse dans le palais d'Arnaout Queuilly si mon oncle Paul ne s'était appliqué à me faire apprendre par cœur les poèmes dont il était hanté. Disciple de l'école dite parnassienne, ébloui par ce qu'il appelait la facture, correspondant de revue que patronnait le comte de Lille, il me récitait et commentait lentement, jusqu'à ce que je les eusse apprises par cœur, les strophes d'un sonnet célèbre de Théophile Gautier qui résumait pour lui l'inspiration et les prouesses qu'il exigeait d'une œuvre poétique. Description exacte, haute en couleur, adoucie par d'habiles transitions, s'élevant soudain à la pensée philosophique traduite par l'image. L'élancement final d'une facture irréprochable, voilà ce qui jetait l'oncle Paul dans l'émerveillement. Triste et malade, éloigné de toute distraction, immobile dans mon lit drapé d'une moustiquaire, ne recevant que le jour triste filtré par les sombres sycomores que dispensaient les fenêtres de l'ouest non voilées contre le soleil, je m'appliquais à retenir les vers qui m'étaient proposés en exemple irréfutable. Le piano de ma mère emplissait à nos côtés, du tumulte de l'harmonie, l'étendue d'un salon vaste comme une route, que des lustres énormes et nombreux divisaient au plafond ainsi que des bornes étincelantes. L'oncle Paul, sérieux, patient, recueilli, détaillait le sonnet vénéré et, dévotement, en prière autant que lui-même, je répétais après lui, surveillé par son regard attentif, le poème, guillemets. Sur le Guadalquivir, en sortant de Séville, quand l'œil à l'horizon se tourne avec regret, les dômes, les clochers, font comme une forêt, à chaque tour de roue, il surgit une aiguille. D'abord, la Giralda, dont l'ange d'or scintille, rose dans le ciel bleu, darde son minaret. La cathédrale énorme à son tour apparaît par-dessus les maisons qui vont à sa cheville. De près, l'on n'aperçoit que des fragments d'arceaux, un pignon biscornu, l'angle d'un mur maussade, cache la flèche ouvrée et la riche façade. Grands hommes, obstrués et masqués par les sceaux, comme les hautes tours sur les toits de la ville, de loin, vos fronts grandis montent dans l'air, tranquilles. Fin de guillemets. Comment décrirais-je l'émotion respectueuse ressentie au dernier tercet, quand l'oncle Paul me faisait remarquer que l'esprit s'arrachait à l'orfèvrerie du verbe pour atteindre un juste infini. Ainsi, j'habitais un palais sur le Bosphore. Autour de moi croissaient les arbres et les fleurs que l'imagination situe au paradis. J'entendais nommer par des sonorités ravissantes les plus beaux paysages qu'offrait l'horizon. On me désignait au loin, sur la rive d'Asie, les vergers de Bellerbey, où avait joué, adolescente, la mère d'André Chénier. Et pourtant, au cours de leçons poétiques qui me transportaient, je détournais ma pensée du présent. Je me penchais vers l'Espagne. Je me réfugiais sur les bords du Guadalquivir. Je rêvais à la Giralda, tant il est exact que la joie, ainsi que les cris d'Annunzio, est toujours sur l'autre rive. J'ai aimé, dans mon enfance, le sonnet cher à l'oncle Paul, avec cette réjouissance d'une âme insatiable qui se disait guillemets. Voici donc tout ensemble la musique, la peinture, les paysages reflétés par l'esprit, l'épanchement du cœur, et pour terminer, les mouvements aisés de l'intelligence, énonçant une vérité ingénieuse et pathétique. La poésie est sans aucun doute l'art spacieux et dominateur dans lequel tous les autres se confondent. Depuis cette initiation et dès mes premiers essais, j'ai parlé un langage où ne restait plus entière la certitude et la foi puisées dans les enseignements de l'oncle Paul. Sans modèle, sans guide, seul avec la nature, je l'ai contemplé, j'ai écouté son appel et ses confidences, je me suis abandonné à elle et je l'ai attiré sur mon cœur. Cette union passionnée m'inspira une harmonie hardie et neuve, soutenue par la tradition et les réminiscences, mais qui ne recueillait les conseils d'aucune école et ne voulut reproduire que ce qui est vif et frémissant. J'ai insisté sur la malchance qui troubla mon été du Bosphore et me le rendit cruel. Si, plus tard, j'ai pu chanter avec amour les rives orientales de l'Europe et la rive d'Asie que je ne connus qu'enfant, malade et mélancolique, c'est que j'oubliais toutes les souffrances que j'avais endurées, pour ne me souvenir que de quelques plaisirs et de quelques étonnements. Parmi eux, mon voyage en caïque, flèche légère soulevé par les flots, qui nous porta au jardin luxueux des eaux douces, où je pénétrai dans un pavillon de faïence et d'or, inhabité et prêt, semblait-il, à recevoir la visite du bonheur. Les brèves promenades du soir pendant ma convalescence au village de Bébec, que le soleil couchant opprimait de ses puissantes lueurs abaissées, cependant que, par groupe, rôdaient les habitants de notre demeure, occupés aux secrets et aux délations amoureuses. Je gardais fidèlement l'image de l'amitié dont m'entourait ma cousine Irène, jeune fille romanesque, déjà en âge d'être coquette et de poursuivre le songe obsédant du mariage, et qui, néanmoins, choisissait de s'asseoir auprès de mon lit et de tenir ma main d'enfant malheureuse. Enfin, une visite au grand bazar de Constantinople m'avait arraché aux sentiments de toute contrée. Dans les dédales de cette cité, des soies, des nacres, des bijoux, des tabacs et des armes, le sévère Théodore Baltasi, grec romantique et chevaleresque, qui me traitait en dame, très petite, mais digne des mêmes égards, m'offrit une quantité d'écharpes en gaze de brousse. On révérait cet imposant Don Quichotte de l'honneur hellénique, homme silencieux, absorbé rêveusement par les révolutions et les guerres de l'indépendance, par la figure héroïque de Canaris, que Hugo ressuscite en ses vers de magnifiques couleurs. Guillemets. Mais il te reste, ô Grec, ton ciel bleu, ta mer bleue, tes grands aigles, qui font d'un coup d'aile une lieue, ton soleil, toujours pur dans toutes les saisons, la sereine beauté des tièdes horizons, ta langue harmonieuse, ineffable, amolie, que le temps a mêlée aux langues d'Italie, comme aux flots de Baïa, la vague de Samos, langue d'Homère, où Dante a jeté quelques mots. Il te reste, trésor du grand homme Candide, ton long fusil sculpté, ton yatagan splendide, tes larges caleçons de toile, tes cafetans de velours rouge et d'or, aux coudes éclatants. Fin de guillemets. Mais surtout, j'avais été intéressée par mon oncle Paul, qui m'avait instruite et divertie au cours des longues journées torpides. Je ne m'étais pas lassée de l'entendre me narrer l'aventure à laquelle il devait de n'avoir pas contemplé en face son dieu, son flambeau, son allégresse spirituelle, Victor Hugo. Ayant à l'occasion des 80 ans de Hugo adressé au vieil âme sublime un sonnet qui parmi des milliers d'envois poétiques avait paru le meilleur à Auguste Vaquerie et à Paul Meurice qui présidaient au dépouillement du scrutin lyrique, mon oncle était venu à Paris dans la seule intention de déposer sa gratitude aux pieds de son idole. Au moment de sonner à la porte du plus grand des poètes, mon oncle, scrupuleux, nerveux, hésitant, épouvanté, se demanda soudain s'il dirait correctement à la servante « Monsieur Victor Hugo est-il chez lui ?» ou bien avec la vénération familière réservée à l'exceptionnel, « Victor Hugo est-il chez lui ?» Ne pouvant résoudre la question, se décider pour la formule de la civilité coutumière ou pour celle de l'adoration, mon oncle s'enfuit, terrorisé d'amour. Dès qu'il entendit des pas dans l'escalier de l'hôtel exigu de l'avenue Delos et qu'il put craindre de voir s'ouvrir la porte du temple modeste où logeaient, par la puissance du génie, les sommets et les gouffres.